Ma préférence, Jacques Lavergne.
Chloé Morand-Bridé, bonsoir. Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Esprit Occitanie, émission dite culturelle où on va vous parler de ce qui se passe un peu dans la région. Alors des choix bien sûr arbitraires, on va vous parler de théâtre avec le Jaurès au Théâtre du Pavé, on parlera de Brusson et d'une exposition, Chloé est allée faire du son, elle a beaucoup travaillé, beaucoup sorti. Nous parlerons littérature avec Pascal Sabatier qui sera dans sa bibliothèque et puis nous parlerons également avec un éditeur, le directeur de collection Gilbert Noguès du Noir au Sud des éditions Kern et nous terminerons par le cinéma et puis nous entrecouperons toutes ces rubriques de pause musicale, une pour Chloé, une pour moi-même, vous connaissez le principe, et une pour l'homme qui est au bouton ce soir, Marco Pazzoni, notre Corse. Voilà, vous avez le programme, c'est parti, c'est ma préférence. Et nous allons commencer, on va commencer, Chloé, par votre reportage au Théâtre du Pavé. Vous êtes allé à la rencontre de Jaurès, et puis pas que de Jaurès d'ailleurs, je crois.
De Francis Fourcoux, le metteur en scène.
Voilà, alors je précise qu'il y a à peu près un an de ça, je recevais... à ces mêmes micros, Francis Azéma, qui jouait dans un film qui s'appelait Le Voyage de Jaurès, hein, puisque Jaurès était parti en Amérique latine, qui était tourné par le cinéaste Francis Fourcoux, autre Francis, donc ils étaient là tous les deux pour nous parler de leur film. Et puis là, ils ont décidé de tourner, transformer ce film, de le mettre en scène, de le transformer pour en faire... une pièce de théâtre, donc autre technique, autre ambiance, et on va voir ce que ça donne avec votre reportage.
Oui, Francis Fourcoux, donc c'est moi qui mets en scène ce spectacle, avec Francis Azéma dans le rôle de Jaurès. Moi, mon métier, c'est plutôt le cinéma, mais exceptionnellement, ce texte m'est venu par un ami, je l'ai trouvé magnifique, ça racontait... à la fois le voyage de Jaurès en Amérique, et puis tous ses discours. C'est un livre touffu de 240 pages, et il me semblait extrêmement intéressant d'en sortir, je dirais, toute l'actualité. Donc j'ai sélectionné, une quarantaine de minutes. Ces 40 minutes, en fait... raconte avec une actualité qui peut en quelque sorte être en écho un certain nombre d'éléments de sa pensée, sa philosophie, sa vision de l'histoire philosophique du monde, sa vision du socialisme, sa vision de la vie économique qu'il aimait penser comme beaucoup axée sur la coopération, mais aussi sa vision de la paix, de la guerre, sa vision de tout ce qui constitue la pensée très originale d'un homme de ce temps, 1911, où il est un des rares hommes politiques à cette époque-là à vouloir partir pour 3 semaines de bateau, aller 3 semaines retour dans des pays neufs, dans des pays d'Amérique latine que finalement, à l'époque, très peu de gens connaissent. Puisque, on va dire, la grande expansion de ces pays d'Amérique latine, c'est autour, entre 1880 et 1920, que, par exemple, Buenos Aires va connaître une expansion extraordinaire, va passer de 50 000 habitants à 200 000, 400 000, 500 000, 1 million et demi d'habitants. Donc on est dans une transformation qui est liée à la deuxième partie du 19e siècle européen, à savoir les grandes crises alimentaire après 1850, dû au phylloxéra, dû à toutes les maladies qui se transmettent, la maladie de la pomme de terre qui crée cette grande famine en Irlande, mais aussi en Allemagne, mais aussi en France, grande période d'immigration où l'activité industrielle ne répond pas à cette désertion des campagnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les gens se retrouvent à partir émigrer. Et l'Amérique latine, après l'Amérique du Nord, est une très très grande destination.
D'accord, bah vous venez nous faire un beau pitch de la pièce là quand même. Pourquoi avoir voulu faire une pièce sur Jean Jaurès? Pourquoi un tel personnage?
D'abord, je crois que Jean Jaurès, il est beaucoup cité dans beaucoup de moments de notre vie publique. Y a-t-il un homme politique qui soit utilisé dans son nom pour baptiser rue, avenue, parc, lycée, collège? Il n'y a pas d'homme politique en France qui n'a donné autant de noms à autant de lieux. Donc il y a une sorte de renommée, une renommée qui ne correspond pas à la connaissance qu'on en a. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui meurt en 1914, assassiné à la veille de la guerre de 14. C'est un pacifiste. Sa parole complexe n'est pas suffisamment lue. Et c'est une belle langue, un beau français, des aphorismes, mais aussi des beaux aphorismes, comme par exemple, on ne peut pas utiliser la guerre pour se débarrasser de la guerre. Des choses comme ça, qui sont des... Il n'y a qu'une humanité, la race humaine. C'est un homme, c'est un humaniste ancré dans son temps, qui est à la fois journaliste, professeur de philosophie, normalien, philosophe, ouvert au monde, cultivé, grand lecteur. Il va tenir dans la dépêche des chroniques pendant 30 ans, qui seront considérées toujours de façon extrêmement favorable par les lecteurs de la dépêche, qui se jetteront sur ses éditoriaux, sur ses notes de voyage, ses rencontres, parce que quand il est député, il parcourt la France. Donc c'est un homme multiple et il y a toujours une grande bienveillance. Il y a beaucoup de modernité chez lui. Il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant dans ce personnage de Jaurès. Et c'est de cette façon-là qu'on l'aime. C'est l'homme bienveillant, l'homme de paix, l'homme le pacifiste, l'humaniste, l'homme pour qui la meilleure façon de s'élever, c'est d'apprendre. C'est le partage et l'émancipation par l'éducation. Je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui.
C'est un exemple d'homme dont il faut faire perdurer la mémoire, donc pour vous. C'est pour ça que ça vous semble important de le représenter à travers cet univers.
Oui, il y a un peu plus de deux ans, quand Samuel Paty a été assassiné, je crois que beaucoup de gens ont été extrêmement sidérés par cette information. Lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, le président de la République a lu une lettre fameuse de Jaurès, la lettre aux instituteurs. C'est pas un hasard. Voilà, chaque fois qu'il y a un événement important, douloureux de notre vie nationale, Jaurès est là, dans nos cœurs et dans nos pensées, pour, soigner notre vision de notre pays.
Et alors, vous avez produit de nombreux films en tout genre, même des courts-métrages. Pourquoi là, vous avez préféré avoir une approche théâtrale pour Jean Jaurès?
C'est Francis Azéma qui m'a mis le pied à l'étrier. Moi-même, j'avais écrit le texte, non pas les textes de Jaurès, mais les textes des lettres, qui sont le contrepoint intime, personnel et familial des grands discours qu'il prononce en Amérique latine. Et donc, en termes de spectacle, j'avais imaginé que pouvait répondre à ces discours de Jaurès sa vision intime, politique, sensible de ce voyage qu'il vivait. Et quand j'ai écrit ces textes, je les ai montrés à Francis Azéma, j'ai dit, tu pourrais très bien mettre ça en scène, moi je ne suis pas un homme de théâtre. Francis m'a dit, moi ça m'intéresse beaucoup, on va le faire, mais c'est toi qui vas mettre en scène. Voilà. Alors donc, poussé par le vent de Francis Azéma, qui est un vieux complice, on a fait déjà deux films ensemble, et me voilà la tête d'une mise en scène que je n'avais pas vraiment imaginée au départ. Mais je dois dire que j'ai beaucoup appris. On apprend toujours, quel que soit l'âge.
Vous pensez que c'était un challenge pour Francis d'incarner un personnage historique comme lui?
Je pense qu'il faut voir le spectacle pour voir l'intensité magnifique, ce verbe qui nous emporte, cette poésie du texte, la qualité de tout ce que nous raconte Jaurès. Francis, il l'emporte dans un enthousiasme, dans un torrent de mots magnifique, et je crois que Francis a rendu ses propos de Jaurès encore plus vivants. Jusqu'au 28 mai, au Théâtre du Pavé à 20h30, et pour dire d'un mot ce que les spectateurs peuvent ressentir, je crois qu'il y a... c'est une parole qui nous emporte. Le rythme du spectacle est là, et les moyens numériques qu'on a utilisés pour rendre ce spectacle à la fois vivant, enthousiasmant, je crois qu'il est transcendé par cette parole magnifique de Jaurès. Je n'ai qu'un mot à dire aux spectateurs, venez l'écouter, venez le voir.
Voilà, merci Chloé de ce beau reportage. Je pense que nous n'avons pas encore vu la pièce, on a vu le film, mais ce soir on va réparer cela et on va aller voir Francis Azéma dans son voyage de Jaurès. Alors je vous propose de faire la première pause musicale, c'est la mienne, j'avais décidé comme ça que la première serait la mienne. Voilà, je vais vous emmener au Havre. Alors pourquoi au Havre? Il y a Perrine Hope au Havre, que vous ne connaissez pas, qui est une jeune femme qui a un parcours assez différent des autres artistes. Elle est une sportive depuis sa plus tendre enfance, passionnée de sport et surtout de gymnastique. Elle était aux États-Unis, elle a intégré un grand club qui lui a permis de progresser, de participer à plusieurs championnats de France. Alors, vous savez que c'est une discipline où on se blesse souvent, mais elle en a eu comme tous les autres. Elle a l'esprit extrêmement combatif et pendant près de 20 ans, elle n'a jamais arrêté. Et puis un accident est venu mettre un terme à sa carrière de sportive. Elle a subi plusieurs opérations, des complications aux épaules qui d'abord ont mis un terme à sa carrière de gymnaste et aussi l'ont obligée de suspendre son métier d'enseignante en sport. Donc elle a franchi un jour, par hasard, encore handicapée par cet accident, une école de musique, la porte d'une école de musique, et elle a eu véritablement la révélation et elle s'est mise à écrire des textes, à composer de la musique. Elle a participé à différentes masterclass, des duos, des piano-voix, des doublages de voix. Et c'est devenu une passion et son nouveau métier, le plaisir d'écrire, bien sûr, de composer. C'est aussi pour elle, quelque part, une thérapie parce que son accident a été extrêmement dur à vivre et elle souffre encore d'un certain nombre de blessures. Et moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Par contre, j'ai fait une émission d'une heure avec elle. C'était le temps du Covid, le temps où on faisait des émissions à distance. Alors, on se voyait, mais on n'était pas en présentiel, selon ce mot horrible qu'on emploie aujourd'hui. Et donc, Perrine, nous avions fait cette émission, nous avait parlé de ce parcours. Et j'avais envie ce soir qu'on en entende sa dernière création. Donc, voilà, Perrine Hope, notre Havraise.
Souvent le soir, mon cerveau fait de la balançoire, un phénomène des emparants, comme une valse à contre-temps. Vais-je laisser ma vie de côté? Dans la nuit, je suis apeurée, tourne, tourne encore. Souvent troublant, mais ton plein fer sur les te pousser à l'extrême. Sache seulement que je t'aime. Et même si parfois tu ne me reconnais pas, s'il te plaît reste là. Me viens auprès de moi, lorsque semble ma joie, je t'en prie reste là.
Voilà la vraie Périnope que vous pourrez retrouver sur Facebook ou sur YouTube ou sur tout ce qui aujourd'hui permet de rapprocher les gens et de se regarder, de s'écouter. Chloé, vous êtes allée où ? Vous êtes allée en province lointaine, hein, à Villemur-sur-Tarn, c'est très loin de Toulouse, pour un événement qui se passe dans une ancienne usine qui était l'usine de Brusson, autrefois appelée d'ailleurs Brusson Jeune, et qui faisait des pâtes, je crois. Oui. Et on ne fait plus de pâtes chez Brusson aujourd'hui. Qu'avez-vous vu, Chloé ? On n'avait pas mangé des pâtes ?
Eh ben non, du coup, alors j'ai vu cette usine désaffectée que je connais bien par ailleurs, et j'ai vu donc la préparation, l'installation de cette sorte de festival, on va dire, d'événement culturel qui va s'y produire les 4 et 5 juin. Voilà.
Et donc, vous allez nous en dire plus à travers ce reportage.
Voilà.
C'est ça. Eh bien, alors, on vous écoute. Voyage à Villemur-sur-Tarn.
Je m'appelle Nico. Je suis originaire de Toulouse. Je suis passionné de skateboard et de plein d'autres choses. Et je me suis lancé dans ce festival avec mon collègue Rodolphe. Voilà, qui est un projet assez fou.
Mais moi, je m'appelle Rodolphe. C'est Rod'n'Roll aussi sur les réseaux. Donc, je suis plutôt le côté fou de l'event, même si on se partage un peu l'art et le reste, mais moi c'est le parti food et Nico le skate.
C'est quoi ton parcours personnel ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a amené à faire ce genre d'événement ou même au skate en général ?
Alors mon parcours personnel, j'ai commencé le skateboard à 12 ans, j'ai jamais arrêté, j'ai 40 ans. Et ensuite, moi dans ma vie j'ai un magasin de guitares, je fabrique des guitares et je vends des guitares de collection. Et j'ai toujours été dans l'action, dans le sens de... Je fais des choses, quoi. Je me bouge le cul à faire des choses. L'événementiel, c'est assez nouveau. Mais j'ai participé aussi à beaucoup de projets de skatepark sauvage, DIY, qu'on fabrique sous des ponts d'autoroute ou des trucs comme ça. Okay. Donc j'ai plusieurs facettes, dans le skateboard, la musique. Et je suis un grand amateur de nourriture aussi, et de resto, quoi, et de food. Alors ce projet, il est un peu là pour casser les codes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est mélanger plusieurs univers. L'univers de la nourriture ou de la cuisine haut de gamme. Et notamment du skateboard et du skate art, c'est-à-dire tout ce qui en découle, donc des peintres de planches de skateboard, des photographes et tout ce qui découle à l'art du skateboard. Et
en quoi ça casse les codes d'allier tout ça ?
Ben, ça casse les codes dans le sens où, en général, dans des événements de skate, on va avoir que des skateurs, des gens qui vont être là pour voir du skate. Et dans les événements, par exemple, de food, c'est-à-dire des festivals culinaires, on va avoir que des gens qui viennent là pour manger. Comme des gens qui viennent voir des concerts de tel ou tel genre, c'est-à-dire des gens qui vont aller voir que du métal ou que du hip-hop, des trucs comme ça. Et si tu veux, là, dans le concept de ce festival, il va y avoir plein d'écoles, c'est-à-dire plein d'écoles de culture de gens qui vont se mélanger. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui n'auraient jamais été voir un truc de skate, mais qui viennent dans un festival de bouffe, qui vont voir du skate. Et vice-versa, les skateurs qui vont voir de la bouffe, mais qui n'en auront jamais vu à ce niveau, si tu veux, sur les skateparks.
On nous a parlé de ce lieu. Donc on s'est débrouillé, on a eu un rendez-vous avec le maire de Villemur, on lui a proposé le festival. Il a été enthousiaste, il nous a dit allez-y, ok, et puis après ça s'est monté avec des personnes de la mairie, etc., qui nous ont soutenus là-dedans. La halle principale, la halle FL, est magnifique, quoi. Ouais. C'est superbe. L'endroit en général est très bien, et pour un festival c'est l'idéal, parce que du coup nous on peut exposer au premier étage, exposer au rez-de-chaussée, vraiment créer de la vie à l'extérieur, et profiter de toute la friche environnant le principal hangar.
Parce que je rappelle du coup qu'on est aux usines Brusson de Villemur-sur-Tarn, donc qui sont un peu à l'abandon, quoi,
ouais,
et donc qui servent à des projets artistiques de ce genre. Okay.
Donc là, on a des gros artistes cette année, dont beaucoup viennent aussi de la culture skate. Pas que, mais en tout cas, et voilà, ça nous semble évident de créer vraiment un environnement qui soit cool dans son ensemble.
Diversifié.
Ouais, ouais.
Et est-ce qu'on a des noms, du coup, d'artistes musicaux qui seront là ?
Musicaux, le samedi soir, ce sera le groupe Madame. Donc, c'est trois nanas qui envoient du bois, du rock bien senti. Juste après, en tête d'affiche sur la cathédrale. Et le lendemain, c'est Brian's Kitchens. C'est une reformation toute nouvelle, là. Donc, ils viennent faire leur premier concert à Brusson, mais d'anciens bien virulents du rock. Et en tête d'affiche sur la cathédrale. Ah, j'ai dit cathédrale sur le deuxième, c'était Sabotage, ouais, le deuxième.
Ok.
Mais il faut venir parce que ça, bah, déjà rien que le lieu vaut le coup. Mmh. Ensuite, on fait tout vraiment pour que ce soit un ensemble, c'est-à-dire venez passer le week-end avec nous, quoi, parce que ça va changer tout le temps. Le skate va être très impressionnant, donc même si on n'est pas spécialiste de la matière, on ne peut que admirer quand ça envoie quand même du bois. C'est un sport qui va être au JO, etc. Donc là, au moins, nous, on montre le vrai skate. Ce que c'est que le skate, bah, c'est ça. Voilà. Mmh. C'est un skatepark engagé, dans un endroit engagé aussi. Et il y a des expos super, dont Richard Béliat qui parlera à tout le monde. Alors certes, peut-être pas toi parce que tu es plus jeune, mais c'est un gros photographe de rock. C'est lui qui a fait les premières photos de Nirvana en Europe, de Guns N' Roses en Europe. On fait une surprise avec lui aussi. On a un photographe qui s'appelle Fred Mortagne, vidéaste aussi, avec qui on fait deux... c'est pas vraiment des expos, des performances, quoi. Enfin, ça va être chouette. On a Lucas Beaufort qui nous a fait une super expo, on l'a déjà, donc on sait comment ça va rendre. Enfin, il y en a partout, en fait. Il y a plein de photographes, pas que de skate. Il y a plein d'artistes, de tout, plus d'une vingtaine d'artistes. Et tout le skate va changer aussi, on va mélanger le skate avec la gastronomie. Il y a tout un gang de nanas qui vient de Biarritz et de Toulouse pour faire des animes de skate girly, etc. Enfin, ça va être chouette, quoi. Alors, les prix en pré-vente, c'est 15€ sur Festic. Le passe une journée, 25 les deux jours. Et les habitants de Villemur ont une petite réduction s'ils le prennent à la mairie. Et sinon, ce sera sur place au moment.
Okay. Voilà. Super, bah, merci beaucoup.
Bah, avec plaisir.
Allez, voilà. Alors, rappelez-nous, Brusson, c'est l'usine Brusson qui se trouve où?
Alors, vous voulez la localisation précise dans Villemur? Parce que je peux vous la faire.
Non, déjà pour aller à Villemur, parce que tout le monde ne sait peut-être pas où.
Alors,
est Villemur.
Villemur-sur-Tarn, c'est une très belle commune médiévale, on peut dire, qui est à 30 km environ de Toulouse, vers le nord. Et donc,
c'est le Tarn, je pense, Villemur.
Non, on est encore en Haute-Garonne, à la frontière entre le 82 et le 31. Et alors là, c'est une usine, donc, comme vous l'avez dit précédemment, qui faisait des pâtes. Et en fait, Villemur était très connu pour son activité industrielle dans ce secteur. Donc voilà, c'est cette usine, mais à l'arrêt et désaffectée, qui sert à ce genre de projet.
Qui est un espace énorme, hein, de souvenir, d'y être allé professionnellement, c'est colossal. Bien, merci Chloé pour ce Brusson et ses pâtes et cet événement. Pause musicale, c'est la vôtre. Alors c'est vous qui l'a prononcé. En plus, vous avez choisi un titre qui est imprononçable pour moi.
Alors,
soyons clairs.
C'est No Surprises de Radiohead.
Silence.
Voilà, alors c'était la pause musicale, le choix de Chloé. Alors pourquoi ce choix, Chloé? Parce que finalement, vous nous avez fait écouter le morceau immédiatement, vous n'avez pas dit pourquoi vous l'avez choisi. Il devrait y avoir une raison, quelque part.
Oui, alors c'est un morceau que j'avais appris à jouer au ukulélé.
Imagine absolument pas en train de le jouer au ukulélé.
Ah bah écoutez, si. Et donc voilà, c'est un morceau que j'adore et qui me rappelle des souvenirs, voilà.
Et peut-on savoir lesquels?
Ah bah, je ne peux pas partager ça dans l'émission, Jacques, désolé.
Bon, eh bien, tant pis, nous resterons sur notre faim. Rubrique suivante, on va parler de livres. On va parler de livres avec Pascal Sabatier, qui doit être dans sa bibliothèque. Est-ce que vous êtes avec nous, Pascal?
Je suis là, fidèle
bonjour,
au poste.
Bonjour, Pascal. Moi bonjour, aussi, Jacques. Fidèle au poste, avec Chloé Morand.
Bridé.
J'ai toujours un petit problème avec son nom. Il est trop long pour moi, avant un certain âge. On ne mébrise plus, vous le savez, Pascal. Vous aussi, vous avez ce même problème.
Oui, mais moi, je dirais juste bonjour Chloé, comme ça, ça ira.
Bonjour, Pascal.
Alors, qu'avez-vous lu pour nous, Pascal?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que j'ai beaucoup aimés et qui sont en lien direct avec l'actualité, parce que souvent, avec la fiction, on apprend beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure. Le premier parle d'un sujet que je qualifierais de brûlant, puisque c'est le réchauffement climatique qui nous menace, qui nous touche même complètement. Et quoi de plus approprié pour en parler qu'une dystopie, forcément. Il s'agit de Gaïa, comme le nom de la mythologie grecque pour la Terre. Et il est signé de Valérie Clot et il est édité chez Buchet-Chastel.
Sérieuse si l'année.
Voilà. Je vous raconte l'histoire.
Il ne faut pas divulgâcher, comme l'on dit maintenant. Hein.
Non, je ne divulgâche pas, mais je suis obligée de vous dire un petit peu de quoi ça parle.
La teneur de cette affaire, oui.
On est en 2099. Deux journalistes sont envoyés faire des recherches dans un village qui, 50 ans plus tôt, donc 2049, s'est vidé brutalement de sa population. Alors, certains habitants sont partis, on se doute, et d'autres sont morts sur place, mais vraiment... comme à Pompéi, ils sont restés figés, il y a les squelettes en travers des portes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? On ne sait pas. Il était pourtant un modèle en matière d'autosuffisance alimentaire, d'architecture pour faire face à la succession des aléas climatiques. Bref, mais il semblerait que toutes ces précautions n'aient pas suffi. Donc ces deux journalistes vont essayer de savoir ce qui s'est passé. Et pour ça, ils vont être aidés par une découverte. Ils vont découvrir deux journaux qui ont été rédigés par Laura et Mel. Ce sont deux sœurs, deux journaux intimes, dans lesquels elles racontent des faits depuis deux lieux différents. Et donc, c'est ces faits qui sont la teneur de ce roman. Alors certes, ce roman est une fiction d'anticipation. Mais à l'échelle de l'humanité, cette anticipation donc de 49 ans est très légère. Et en lisant, on ne peut s'empêcher de penser que ce que nous racontent les deux personnages, c'est certainement ce qui nous attend dans 50 ans.
Peut-être moins, Pascal.
Voilà, donc 30 degrés en novembre, des tempêtes à répétition qui détruisent tout.
C'est déjà alors fait, des mesures, on a déjà ce genre de choses. Il manque plus qu'une fréquence plus soutenue et on y est.
Et ça va un peu plus loin dans la dystopie, puisqu'elle nous raconte des mesures quasi dictatoriales pour enrayer ce réchauffement qu'on savait pourtant inéluctable. Mais donc on est évidemment à un enfant par couple, on est à 200 grammes de viande par personne et par mois. Enfin bon, tout un tas de dictats comme ça qui sont imposés dans la société. Donc ça fait pas vraiment rêver, mais c'est très bien écrit. C'est bien construit, c'est très efficace, c'est pas très long, mais alors ça dit beaucoup de choses en peu de pages, ça bouscule, ça donne vraiment à réfléchir. Donc moi je dirais qu'elle sonne cette dystopie comme un énième avertissement, et en refermant ce petit livre, on ne peut s'empêcher de se dire que si on a encore 30 ans devant nous, de température supportable et d'une certaine liberté, il va falloir bien en profiter.
Ça fait plaisir aux gens qui sont sur le plateau, parce que, évidemment, je suis le grand ancien, mais à côté, nous n'avons que des très jeunes et des jeunes, donc je pense qu'ils ont compris le message, je ne sais pas si ça les rassure. Pour l'instant, ils sont restés de marbre. Alors, rappelez le titre, voilà, Pascal, donc, le titre de ce livre.
Alors, ça s'appelle Gaïa, comme la Terre, oui. Et c'est de Valérie Clot, et c'est chez Buchet-Chastel, et c'est sorti, oui, c'est très récent, c'est sorti il y a un mois, je crois. Et puis c'est vraiment plus facile à lire que les rapports du GIEC, je pense.
Je suis con. Oui, mais les rapports du GIEC, c'est pas mal, ça, avec les rapports du GIEC. On en parlera d'ailleurs demain dans notre émission Arcadien. Les rapports du GIEC s'affichent dans le métro, c'est très intéressant de voir ça dans le métro parisien, bien sûr. Deuxième livre, Pascal.
Le second, voilà, le second roman dont je vais vous parler, lui, il est signé Benoît Vitkin, que vous connaissez peut-être, qui est un journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste des pays de l'ex-bloc soviétique. Et il s'intitule Les Loups, et il est édité aux Arènes dans la collection Equinox. Et évidemment, ça nous ramène en Ukraine, puisque ce thriller politique nous raconte l'histoire d'Olana Apko, qui est un personnage totalement fictif, hein, qui vient de remporter les élections présidentielles ukrainiennes. Dans 30 jours, elle sera investie, et pendant ces 30 jours, elle va devoir mener une lutte sans merci face aux oligarques ukrainiens et aux services secrets de Poutine qui vont tout faire pour l'abattre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers d'une fiction, l'auteur parvient à éclairer de façon très lisible toute la complexité de la situation ukrainienne. Ça, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux parce que, effectivement, c'est très compliqué depuis l'écroulement de l'URSS en 1991. Alors, en résumé, on en entend beaucoup parler, mais pour Poutine, vais-je y arriver ? Lui, c'est un personnage assumé hein, dans le roman. L'indépendance de l'Ukraine, c'est une trahison de Gorbatchev et des Occidentaux, à laquelle il peut éventuellement pardonner, à condition qu'elle joue selon ses règles en acceptant manipulation et corruption. Donc, Olena a été élue sur un programme de promesses réformatrices tournées vers l'Occident, et ça, c'est inacceptable pour les Russes, qui lancent une campagne de chantage dont ils sont les spécialistes, afin de la discréditer en fouillant dans un passé peu recommandable. Parce que là où l'auteur est très fort, c'est qu'il ne choisit pas une héroïne très attachante, mais une femme vraiment avide de pouvoir, pour qui la fin, c'était s'extraire de son milieu d'origine, a justifié absolument tous les moyens. Alors cette femme d'affaires redoutable a usé des mêmes pratiques que les oligarques qu'elle doit désormais affronter, et pour elle, la conquête ne s'arrête que lorsque l'ennemi est totalement écrasé, autant dire qu'elle ne va pas laisser faire. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Dès les premiers chapitres, on est totalement embarqué dans le compte à rebours pour la survie, ou pas, d'Olena. Et les chapitres égrènent le défilé des 30 jours avant l'investiture présidentielle. Et donc cette machine narrative n'a aucun temps mort. Elle crée un vrai suspense jusqu'à un final complètement inattendu. Voilà, alors à l'heure où les armes parlent en Ukraine, malheureusement, Benoît Vitkin donne avec Les Loups, le titre du roman, une idée assez précise d'un pays que les Russes considèrent depuis son indépendance comme un enfant indiscipliné qu'il faut mettre au pas, quitte à employer les moyens les plus radicaux. Ce roman de politique fiction passionnant nous fait réfléchir sur tout ce qui se joue réellement derrière cette guerre, et c'est bien loin des simplifications manichéennes qu'on peut entendre à droite à gauche. Voilà, alors je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Les Loups. C'est de Benoît Vitkin et c'est édité aux Arènes.
Eh bien,
et
merci.
Pour info,
oui, pardon.
Son précédent roman qui s'appelait Donbass, qui est un polar aussi, est aussi un très très bon roman dont je vous le conseille aussi tant que j'y suis. Voilà.
Voilà, 3 pour le prix de 2. Merci Pascal. Alors, rappelez où se trouve votre bibliothèque. Tiens, parce qu'on nous pose plein de questions. On dit, mais enfin, cette Pascal Sabatier, où est-elle? Où peut-on la voir?
C'est une bibliothèque secrète. Non, je suis à Montgiscard.
Voilà.
Donc, Montgiscard, c'est situé au sud-est de Toulouse.
Il y a un très beau salon du livre qui se tient en janvier.
Voilà.
Et donc, vous faites partie de l'équipe qui met tout ça en place parce que c'est un gros salon, donc il faut une grosse équipe.
Et là, on a commencé nos lectures. Le comité de lecture tourne à plein régime. Et donc, on espère qu'on va trouver de jolies pépites pour le prochain salon.
Et bien, je vous en soufflerai une hors micro. Merci, merci Pascal Sabatier. Et à
merci
très bientôt.
À vous et à la prochaine fois.
À bientôt. Au revoir, Pascal.
Au revoir.
Au revoir.
Bien, eh bien, on va souffler un peu avec notre troisième pause musicale, et celle-là,
c'est le choix de Marco Pazzoni, notre technicien aux manettes du jour. Alors Marco, qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi ?
Eh bien, moi j'ai décidé de choisir donc une reprise de Creep, du même groupe Radiohead.
Vous êtes concerté avant ou pas ?
Non, c'est le simple hasard et la puissance des Corses. Non, du coup, j'ai
oui,
choisi...
Aussi, oui, aussi,
hein. Donc une reprise faite par Vintage Postmodern Jukebox, je ne sais pas si je le dis bien.
Ah ben, on gros, le comprend en tout cas, je le comprends, donc c'est que vous le dites mal.
Eh bien, c'est parfait alors. Et du coup, une reprise en fait, cet ensemble musical. Ils sont spécialisés pour les reprises de musique plutôt récente, mais dans un style des années 30, donc de jazz, swing et soul. Et donc, l'interprète, la chanteuse, c'est Hayley Reinhardt. Et vous allez entendre sa voix, elle est incroyable.
When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
Thank you. Voilà, eh bien, effectivement, une voix superbe, surprenante. Et peut-être, Marco, vous pouvez nous rappeler le titre de... et le nom du groupe.
Eh bien, c'est Vintage Postmodern Jukebox. Donc, ouais. Voilà.
Avec l'accent corse, ça change de suite.
Et bien sûr.
Bravo, Marco, bravo. Allô, allô. Eh bien, nous devons avoir en ligne Gilbert Noguès, le directeur de collection du Noir au Sud des éditions Kern, éditions Kern qui vont fêter incessamment sous peu leur 25e, c'est ça Gilbert? Bonsoir d'abord.
Oui, oui, bonsoir Jacques, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est 25 ans la maison d'édition, ça fait un quart de siècle.
Et oui, pareil, oui, c'est ça, bravo.
Il paraît que 25 ans, ça fait un quart de siècle, c'est plus de notre âge, c'est plus des âges qu'on a nous, mais bah, enfin, bon. Et oui, donc c'est très bientôt, on va fêter cet anniversaire-là, et puis parallèlement dans la collection, on va aussi fêter, entre guillemets, les 9 ans d'existence de la collection du Noir au Sud. Voilà.
Et qui regroupe combien? Plus d'une centaine de titres, puisque alors, pour le centième, oui. Nous avions tous écrit une nouvelle.
Voilà, voilà. Et là, on est à 140, je crois qu'on les dépasse même, oui, mais on est au 140e.
Donc on peut préparer la nouvelle pour la 200e.
Ouais, on va préparer ça. Je pense que ça, on va le faire même pour 150. Je sais pas, peut-être que pour 150, on va essayer d'imaginer quelque chose aussi, mais on va voir. Puisque oui, le 150e, ça sera en 2023. Donc, comme je vous disais, la petite envie de vous parler de deux titres d'auteurs toulousains, faire un point. C'est pas souvent, on est très souvent dans le Pays Basque, dans les Landes, dans la région bordelaise.
Il y a très bons auteurs de polar à Toulouse aussi.
Voilà, voilà, mais vous les connaissez, puisqu'il y a Stéphane Furlan et Régis Thomas, je voudrais faire un petit point sur deux. Donc Stéphane, pour vous rappel, c'est lui qui avait obtenu le prix de l'embouchure en 2014 avec son premier roman qui s'appelait Ville Rose de Sang. Et là, il revient avec un nouveau titre qui s'appelle Alliance Palladium. Alliance Palladium, c'est le nom qui fait référence à une obscure agence qui étend son empire sur le Darknet. C'est un polar noir qui nous conduit au tréfonds de l'âme humaine. Dedans, il y a l'ombre des cagoulés, ces fameux cagoulés qu'on avait rencontrés déjà dans ses précédents opus, qui vont être là aussi présents. Alors le fameux capitaine Bussy, qui est lui l'enquêteur, il est en pleine déprime. Voilà, sa femme l'a quitté, sa fille... lui créer des amis, c'est un peu classique dans le roman policier, mais bon voilà. Et là, il va complètement vaciller face au crime d'un jeune immigré et victime d'un chantage et qui va être assassiné. Voilà. Donc Victor Bussy, là, il va avoir recours à une brigade qu'il compose, qui va s'appeler la brigade des crimes parfaits. C'est une sorte de nouvelle entité qui va l'aider à résoudre l'enquête.
Bien. Alors ça, voilà. On va rappeler le titre et le nom.
Alors, le titre, c'est Alliance Palladium. Et donc, c'est un roman de Stéphane Furlan.
Aux éditions Kern, bien sûr, puisque nous ne parlons que de ça actuellement.
Voilà. Et... Deuxième auteur, Régis Thomas, que vous avez déjà pas mal croisé sur des signatures, on y était ensemble. Donc il est, vous vous rappelez, il nous avait régalé avec une sorte de dystopie qui s'appelait « Vie et mort » de Marco Mariotti, qui se passait aussi à Toulouse. Et là, il nous offre un nouvel opus qui s'appelle « La part de l'ogre ». Alors là, plus de dystopie, on revient dans l'histoire et on est en décembre 42 dans un Toulouse où claquent les bruits de bottes de l'occupant. Et dans le quartier de la Roseraie, il va y avoir les meurtres de deux femmes, alors affreusement torturées, amputées chacune d'une jambe. C'est va être le départ de l'énigme à laquelle sera confronté un policier parisien qui arrive sur, fraîchement débarqué sur Toulouse, qui s'appelle Pierre Bequem. Voilà. Puis une nouvelle disparition d'une femme aussi qui s'appelle Geneviève Fort et qui va relancer l'enquête, une enquête qui va piétiner. Là, le policier piétine et puis tout d'un coup, l'enquête va rebondir. Alors, est-elle victime du même tueur, de son mari, qui est un notable toulousain au penchant quelque peu pervers.
Non, il y en a beaucoup.
De son amant.
Hein.
Voilà. De son amant SS. Il y en a un peu moins en ce moment, quoique. Et ou d'un redoutable truand. Donc, c'est une femme très, très, très convoitée. Alors, grâce à une reconstitution soignée, la part de l'ogre nous offre une immersion dans une période historique complexe et riche de doubles jeux dangereux. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette fiction mêle allègrement les personnages réels. On va y retrouver Silvio Trentin, qui nous ouvre sa librairie, Jean-Pierre Vernon, futur compagnon de la Libération, qui sirote un verre à la santé du poète Homère. Voilà, on est dans un pur thriller complètement dans la veine des romans de l'anglais Philip Kerr, qui a beaucoup traité sur l'Allemagne de la période nazie. Voilà.
On rappelle le titre.
Alors, ça s'appelle La part de l'ogre, et c'est un roman de Régis Thomas.
Bon, autant. Alors, on sait qu'on retrouvera Régis Thomas et Stéphane Furlan vraisemblablement le Jardin des Plantes le 25 juin, puisque l'Hostal d'Occitanie,
voilà,
et la Radio Esprit Occitanie feront leur fête, et nous aurons un certain nombre d'auteurs, notamment Kern, ainsi que vous, mon cher Gilbert, je pense.
Voilà, j'y serai aussi.
Voilà, oui, nous serons un certain nombre, et on vous avertira, et nous signerons, puisque je serai présent aussi, nous signerons à peu près tous nos livres, et nous espérons vous retrouver nombreux. Merci Gilbert Noguès de ces nouvelles des éditions Kern, et à bientôt.
Et merci à vous, au revoir.
Au revoir.
À bientôt, Jacques.
Merci. Voilà, c'en est fini pour la séquence un peu longue du livre, mais le livre, c'est important. Alors maintenant, on va passer à un autre art avec Chloé, on va parler de cinéma.
Tout à fait. Alors, je vais aujourd'hui vous parler d'un documentaire de France Télévisions, plus particulièrement d'une collection de documentaires Les Effrontés. Les Effrontés, c'est une sorte de mini-série documentaire qui s'interroge sur la place des femmes dans le vaste milieu qu'est le cinéma en 4 épisodes. Il s'intéresse notamment à de grands axes tels que la place ou la non-place qu'il aurait laissée dans la réalisation, leur représentation essentiellement par le regard masculin, les stéréotypes dont elles font l'objet ou encore l'importance de leur apparence. Un grand intérêt est également porté au mouvement MeToo et aux révélations quant à certains réalisateurs qui ont fait tremblement. Cette initiative, à l'occasion du Festival de Cannes 2022, a été proposée par Florence Platarette est produite par Muriel Meynard. Voici ce qu'en dit cette dernière. Réfléchir à cette collection de 4 films documentaires autour de la place des femmes au cinéma a été passionnant. Passionnant parce que cela n'a jamais été fait et parce qu'à travers le cinéma, c'est évidemment toute la société française que l'on regarde. C'est bien connu, le cinéma en est le miroir. Nous avons eu la chance de pouvoir explorer tous ces champs, du plus confidentiel au plus grand public. La place des femmes, leur représentation, leur combat se jouent partout et par toutes. Les femmes de l'ombre comme les stars. Enfin, à la réalisation, nous avons Selma Schnabel, Sophie Perard, Elodie Bouty et Lenny Mera, chacune réalisatrice d'un épisode. Le premier, intitulé « Où sont les femmes ?», s'intéresse à la question de la place qu'elles occupent dans le métier du cinéma, au fait qu'elles ont très minoritairement accès à la création et que certaines ont même été effacées de l'histoire alors qu'elles en sont les pionnières. Dans le deuxième épisode, Une femme peut en cacher une autre, nous rentrons dans le vif du sujet avec la représentation des femmes à l'écran et la déconstruction de leur image faite pour plaire aux hommes. Dans sa suite logique, le troisième épisode, Sois belle et tais-toi, s'attaque aux standards de beauté qui ont été bien longtemps imposés aux actrices, justement pour plaire aux hommes, comme nous le disions juste avant. Certaines y racontent même qu'on leur aurait demandé de se faire casser la mâchoire, figurez-vous, pour avoir un visage plus fin.
Mon Dieu, quelle pratique horrible!
Un zoom est également fait sur la diversité entre les femmes elles-mêmes. Car si les femmes blanches ont connu et connaissent encore des difficultés, c'est d'autant plus le cas pour les femmes de couleur. Certaines racontent avoir été payées moins que leurs homologues blanches, alors qu'elles-mêmes étaient déjà payées moins que leurs homologues masculins. Se mêle à cette question, celle des pressions physiques et morales, dont beaucoup ont fait les frais, entre harcèlement et inégalité salariale. Ce qui nous amène au dernier épisode de ce documentaire intitulé « Girl Power » et sûrement le plus frappant. C'est dans ce dernier que l'on nous intéresse aux affaires d'agression sexuelle, de harcèlement, voire même de viol qu'ont commis des réalisateurs comme le fameux Harvey Weinstein au cœur du scandale MeToo. On y comprend que c'est par l'entraide que ces femmes comptent parvenir à la parité, prendre la place qu'il aurait dû dans les différents postes et tordre le cou aux clichés et au sexisme. Ce documentaire en quatre temps, mené par la journaliste Daphné Routier, est également marqué par la participation d'actrices comme Léa Seydoux, Leila Bekhti ou encore Anaïs Jaoui, mais aussi des femmes issues d'autres professions du cinéma comme la mixeuse Mélissa Petitjean, les réalisatrices Audrey Diwan et Catherine Corsini. Ces dernières nous livrent leur vécu, leur ressenti quant à des injustices qu'elles ont pu expérimenter, comme l'écart de salaire, des réalisateurs violents, des critiques sur leur physique ou encore le sentiment de n'être plus rien passé 50 ans.
Ah ben ça m'a l'air très drôle, hein, le cinéma, ça donne pas envie d'y aller, enfin, surtout quand on est une femme.
Attendez. Elles font également part de leur espoir et de leur encouragement aux actrices, réalisatrices, productrices des futures générations dans un épisode bonus intitulé « Les femmes du cinéma français s'adressent à la relève ». Pour finir et donner mon avis, je dirais que j'ai trouvé ce documentaire à la fois très poignant et très accessible. On se laisse véritablement porter par le fil conducteur. Il y a aussi un fond historique dans chaque épisode qui est très intéressant, avec des images d'archives magnifiques. Et j'étais ravie d'y retrouver des actrices et réalisatrices que j'aime beaucoup et d'en découvrir certaines qui ne sont pas de mon époque et que je ne connaissais pas.
Qu'est-ce que vous entendez par votre époque ?
À l'époque, après les années 2000, je suppose. Le contraste entre ancienne et nouvelle génération donne donc un rendu très plaisant à regarder. Et enfin, c'est l'occasion pour les sceptiques des inégalités entre les genres de se déconstruire et d'en apprendre plus avec des témoignages et des arguments appuyés. Vous pouvez donc retrouver Les Effrontés sur le site de France.tv. Le replay est disponible jusqu'à septembre. Et pour conclure, comme dit l'historienne du cinéma Brigitte Rollet, la parité, c'est quand on aura le droit d'être aussi médiocre que les hommes.
Oui, il y en a beaucoup qui le sont, je peux donner des noms, mais je suis bon camarade, je ne le ferai pas. En tout cas, votre chronique était excellente. Merci Chloé. Eh bien, l'heure est passée très vite et donc il est temps de nous quitter. Donc merci à vous Chloé, merci à Pascal, merci à Gilbert Noguès. C'était Ma Préférence, une émission de Jacques Lavergne avec Chloé Morand-Bridé. Voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci. À la réalisation, bien, vous l'avez entendu lui-même et je le remercie aussi de sa participation. Marcou, voilà, je ne prononce jamais très bien. Ça s'écrit Marcus, ça se prononce Marcou. Voilà, c'est ça les Ajacciens. Merci Marcou. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Et nous nous retrouverons vraisemblablement, si tout va bien, le mercredi en 15 pour une nouvelle édition de notre magazine culturel. Bonne soirée à toutes et à tous.
Au revoir, merci.